La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Salut à toi, jeune auditrice intrépide. Aujourd'hui, je veux aborder quelque chose qui m'a frappé au cours de ces derniers mois à l'antenne. C'est la tristesse des gens qui semble peser sur beaucoup de personnes. Selon une étude de l'OMS, en effet, la France, elle est en tête du classement mondial des consommateurs d'antidépresseurs. Ouais, c'est vrai. Nous, avec nos 69 millions de Français, consommons plus d'antidépresseurs que la Chine et ses presque 1 milliard d'habitants. C'est comme si, faute d'oublier nos problèmes, nous préférions nous dire « c'est pas grave, ça ira mieux demain ». On reporte souvent à plus tard. Mais alors, pourquoi ? Peut-être parce que le stress quotidien, la pression sociale et la quête incessante de perfection contribue à une augmentation des troubles mentaux en France. Ainsi, même si la comparaison avec la Chine est délicate en raison des différences démographiques, elle souligne l'importance de se pencher sur les défis spécifiques en matière de santé mentale auxquels notre pays est confronté. Pour autant, il ne faut pas oublier que la vie, c'est comme le bonheur et comme les autres. Ça va, ça vient, et parfois, bah, ça repart. Mais ça revient toujours. Alors si jamais tu doutes, j'ai un message pour toi. Écoute, écoute très attentivement et fais-moi confiance. Salut toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, tu vas montrer au monde qui tu es vraiment. Tu vas leur montrer que tu es unique en ton genre et qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter cela. Tu mérites le meilleur. Ignore ceux qui essaient de te faire douter, car tu es extraordinaire. Ta personnalité est encore plus belle que ton sourire, elle te rend unique au-delà de tes capacités à affronter les défis de ce monde. Sais-tu que le monde est un endroit meilleur grâce à toi? Tu es fort, tu es confiant, tu es intelligent et charismatique, tu es le package complet. Sur une échelle de 1 à 10, tu décroches le 11 sans hésiter. Alors ne l'oublie pas, d'accord? N'oublie pas qui tu es. Prends la journée comme elle vient et souviens-toi de cela. Je suis fier de toi. C'est le moment où je te rappelle cette citation de Wayne Gretzky qui dit « You miss 100% of the shots you don't take. » Tu rates 100% des opportunités que tu ne prends pas. Alors garde les yeux bien ouverts, tu verras. Il suffit juste de regarder un peu mieux pour que tu vois à quel point tu es formidable comme tu es aujourd'hui. Médite là-dessus. Salut, c'est Théo. Vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est la matinale de 19h sur 93.9. Et ce soir, dans la matinale, nous avons un programme qui va nous emmener un peu partout, puisque sur le 93.9, Esteban Miralles viendra nous parler de sport. Nous parlerons ensuite de la nouvelle initiative de Radio Campus Paris pour lutter contre un fléau français, bien connu dans la chronique de Rosalie. Nous partirons également vers un tonnerre musical dans le Zoom, à l'occasion de la sortie du 5e album intitulé Maps du groupe Exon Salves. Mais tout de suite, nous allons partir au pays des foyers sociaux, puisque nous allons parler expulsion, travailleurs étrangers et d'Adoma, avec un membre du collectif pour l'avenir des foyers. Le programme de la matinale de 19h est relaté. Installez-vous confortablement dans votre canapé, le RER ou votre voiture. Si vous êtes dans les bouchons, vous allez vous révolter ce soir. Vous êtes sur le 93.9, c'est la matinale de 19h. Vous écoutez Radio Campus Paris, c'est parti.
La matinale de 19h.
Et pour m'épauler tout au long de cette première partie d'émission, Lola Noslier et Quentin Lelaquet de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lola, bonsoir Quentin.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vendredi 15 mars dernier, à 9h, au tribunal de Paris, s'est tenue l'audience relative à la demande d'expulsion d'Abou Bakar Ba. Monsieur Ba est âgé d'une 60aine d'années et il est complètement aveugle. Il était pointé du doigt pour ne pas avoir respecté les conditions de son bail en hébergeant une aide quotidienne. Aide dont il a besoin pour vivre sereinement. C'est la 5e opération de ce type au sein du bailleur social et à quelques mois des JO, ces expulsions, elles dérangent et parfois elles interrogent. Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Olivier Akroum de COPAF, le collectif pour l'avenir des foyers. Bonsoir Olivier Akroum.
Bonsoir.
Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, comment s'est déroulée l'audience de vendredi matin?
Ça s'est bien passé. Enfin, l'avocate, elle avait bien préparé l'audience, elle avait bien préparé tout ce qu'il fallait. Après, l'avocate d'Adoma aussi, on commence à la connaître. C'est une machine à expulser, quoi. Et au moins, M. Ba, il avait la chance d'avoir une avocate, mais... En fait, je sais pas comment, si vous savez comment ça se passe dans ce genre d'audience, mais les affaires, elles s'enchaînent et c'est que des gens qui sont expulsés, que ce soit par Adoma, la RIVP, enfin, toutes sortes de bailleurs. Et vraiment, moi, c'était la première fois que j'assistais à une audience comme ça. Et en 2 minutes de discussion, t'as des destins de toute une vie qui sont décidés, quoi. Ils expulsent quelqu'un. Enfin, c'est assez frappant.
Et quand tu dis que ça s'est bien passé, ça veut dire que l'expulsion va pas avoir lieu?
Ah non, non, pas du tout, ça veut pas dire ça, ça veut juste dire que, bah voilà, il a bien été défendu par l'avocate, et il y a moyen qu'il ait des délais pour l'expulsion, mais pour ce type d'affaires dans les résidences sociales, il y a quasiment aucune chance d'échapper à l'expulsion, on peut juste obtenir des délais en général, des délais avant l'expulsion, mais c'est tout quoi, malheureusement.
Et pourquoi y a-t-il eu des expulsions justement au sein de ce foyer-là?
Alors, en fait, le motif de l'expulsion, là, pour ce cas-là et pour les 30 autres procédures d'exception qu'il y a dans ce foyer, c'est hébergement d'un tiers. C'est-à-dire que dans les résidences sociales qui sont des anciens foyers de travailleurs immigrants qui deviennent des résidences sociales au fur et à mesure de la transformation de tous les foyers, dans les résidences sociales, il y a un règlement intérieur que tous les résidents signent au moment d'entrer dans leur logement. Et il est stipulé dans ce règlement intérieur que la personne doit vivre seule dans son logement. Je pense que c'est pareil hein, dans les résidences étudiantes.
C'est ça, au Crous, c'est ouais, exactement voilà. La même chose.
Sauf que historiquement, en fait, dans les foyers de travailleurs migrants, comme en France, il n'y a pas d'accueil pour les personnes immigrées, les personnes sans papier, etc. C'est-à-dire que quand tu arrives en France et t'as aucune ressource, c'est impossible de se loger. Si, quand t'es sans papier, t'as tout simplement pas accès au logement. C'est impossible. C'est soit la rue, soit la solidarité. Et historiquement, dans les foyers de travailleurs migrants, en fait, les travailleurs immigrés qui ont un travail, qui ont les papiers, ils ont toujours accueilli les sans-papiers qui arrivent, qui ont nulle part où aller. Donc, de fait, dans tous les foyers de travailleurs migrants, il y a des personnes qui sont hébergées de manière solidaire par soit des gens de leur village, soit des gens de leur famille. Et ça a jamais vraiment été autorisé. Ça a toujours été, enfin, ils laissaient faire quoi dans les foyers. Mais maintenant, en fait, ils ont décidé que ils allaient faire appliquer le règlement intérieur de manière stricte. C'est-à-dire que dès qu'un résident officiel héberge quelqu'un, il est expulsé. En fait, il y a une procédure d'expulsion qui s'entame et presque aucune chance de s'en sortir devant le juge.
Une des choses que vous nous avez dites, c'est que tous les résidents, ils vont signer ce règlement intérieur qui précise qu'ils n'ont pas le droit de vivre avec quelqu'un. Le problème, c'est que beaucoup de ces résidents sont des personnes étrangères qui parlent pas forcément le français ou qu'ils le comprennent très difficilement. Est-ce que ça leur est expliqué soit dans leur langue d'origine, soit dans une langue qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le droit?
Non, pas du tout, en fait. C'est pas du tout expliqué. Surtout avec ce processus de transformation des foyers, en fait. Avant, enfin, les foyers, ils sont laissés à l'abandon. Clairement, ils sont complètement délabrés. Il n'y a aucun travail qui est fait. Surtout quand il y a un projet de réhabilitation. Genre, si Adoma sait que le foyer va être totalement réhabilité dans 5 ans, ils ne vont pas faire des travaux de grande ampleur. C'est de l'argent perdu pour eux. Du coup, les foyers sont laissés à l'abandon. C'est dégueulasse. Enfin, Si vous y allez un jour, vous allez voir à quel point c'est des conditions d'insalubrité mais inacceptables. Donc, quand le nouveau foyer, la nouvelle résidence sociale leur est présentée, voilà, on visite la nouvelle chambre qui est toute neuve, etc. Même si c'est pas des logements de qualité, en fait, dès que les personnes elles voient ce nouveau logement, ce nouveau bâtiment tout neuf, on leur dit bah descendez, remettez vos anciennes clés, signez le nouveau contrat et allez à la nouvelle résidence quoi. C'est un peu comme ça, c'est à l'arrache quoi. Et si tu rends pas tes clés, tu signes pas le contrat, on te donne pas tes nouvelles clés, on te donne pas accès à ton nouveau logement, on te laisse le visiter et tout. Enfin, c'est un peu comme un appât quoi. Genre et du coup les gens ils lisent pas forcément le contrat. Déjà même ceux qui savent lire et ceux qui savent pas lire, bah il y a même pas le temps en fait. C'est que là il y a les déménagements, il y a le camion, tout ça. Tu descends, tu donnes tes clés, tu signes et voilà quoi.
Et pourquoi, selon vous, il y a de plus en plus de pratiques restrictives de surveillance des habitants ?
En fait, ça suit l'évolution des politiques actuelles en termes d'immigration et de manière générale, dans toute la société française, il y a de plus en plus de contrôles de surveillance, que ce soit pour les populations immigrées, pour les chômeurs, pour les gens au RSA. En fait, les pauvres ont toujours été contrôlés quoi, et surveillés. Mais on est dans un contexte politique en France où c'est de plus en plus quoi. On est de plus en plus contrôlé, de plus en plus surveillé, les caméras, les drones, les machins, les trucs. Et les politiques dans les foyers, les résidences sociales, ça suit cette politique-là. Et aussi, il y a une histoire particulière dans les foyers de travailleurs migrants, c'est une histoire coloniale, une histoire de contrôle, de surveillance. Les foyers, quand ils ont été construits dans les années, à la fin des années 50, début des années 60, il y avait cette idée de reconquérir les zones de non-droit qui étaient les bidonvilles. C'est-à-dire, avant, il y avait des. Enfin, bref, Il y a plein de travailleurs immigrés qui sont venus dans les années 60 directement pour travailler directement dans les usines d'automobiles, etc. Il n'y avait pas de logement prévu pour eux, aucun accès au logement. Du coup, il y avait des bidonvilles qui se sont formés, etc. Et vraiment, à l'apparition des foyers, il y avait cette idée de contrôle des populations immigrées. D'ailleurs, au début, la Sonacotra, c'était des établissements uniquement pour les travailleurs algériens. Et c'était pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que vraiment, il y avait cette idée à la fois de les loger, mais surtout de les garder à un même endroit pour pouvoir les contrôler, quoi. Il y a cet héritage-là qui se retrouve dans les foyers à Doma. Et comme j'ai dit, les contextes politiques actuels, tout ça fait que, en fait, on fait en sorte que les personnes elles soient isolées, plus aucune vie collective dans les foyers, alors que historiquement, c'est un des trucs emblématiques des foyers. Mais voilà, contrôle, surveillance et isolement des personnes pour qu'elles restent dociles, quoi.
Et comment se passent les procédures d'expulsion concrètement ?
Alors comment ça se passe? En fait, dans les nouvelles résidences sociales, ils ont ajouté des compteurs d'eau individuels. C'est-à-dire que dans chaque chambre, on voit ce qui est consommé dans telle chambre en termes quel volume d'eau est consommé dans telle chambre par jour, par mois, etc. Et à Doma, ils se servent de cet indicateur. Bon, ça ils le disent pas officiellement, mais c'est sûr. Il se sert de cet indicateur pour savoir combien de personnes il y a dans la chambre. Parce que forcément, s'il y a une ou deux ou trois personnes, ça va pas être le même volume d'eau qui est consommé chaque jour. Du coup, en fait, ils regardent le compteur d'eau. Ensuite, dès qu'ils savent qu'il y a plusieurs personnes dans la chambre, ils envoient une lettre de mise en demeure pour dire « Oui, on sait que vous hébergez quelqu'un, mettez-vous en règle sous 8 jours ». Où il y aura des procédures qui seront entamées, en gros. Et bien sûr, si tu héberges quelqu'un qui a nulle part, qui a pas où dormir ailleurs, tu vas pas le dégager en disant bah là faut que tu partes parce que j'ai une procédure sur le dos. Enfin, c'est compliqué, quoi. Des fois on les conseille, essayer de dire à votre proche d'aller dormir ailleurs ou quoi, mais c'est pas possible concrètement. Donc voilà, après cette lettre de mise en demeure, il y a des huissiers qui sont mandatés par Adoma pour passer dans la chambre. Ils passent à 6h du matin, un vendredi, un samedi, et ils constatent voilà, s'il y a plusieurs personnes dans la chambre ou s'il y a deux matelas ou un truc comme ça. Ils font le constat et après c'est convocation au tribunal pour une audience. Et quand il y a eu un constat comme ça, c'est quasiment impossible de se défendre, quoi.
Et il y a combien de temps qui se passe entre la demande d'expulsion et le jugement?
Je saurais pas dire, c'est plusieurs mois, quoi. Après la lettre de mise en demeure, il y a quelques semaines qui se passent. Après l'huissier y passe, il y a le constat qui est fait. Mais en fait, une fois que le constat est fait, j'ai envie de dire que c'est un peu trop tard déjà, quoi. Dès que le constat d'huissier il est fait, c'est très difficile de dire non, mais regardez, je me suis mis en règle. Soit il faut faire venir un huissier soi-même, soit il faut produire des attestations de voisins qui disent non, il habite bien seul. En fait, c'est des batailles administratives. Même pour des gens qui parlent bien et qui écrivent bien français, c'est compliqué. Alors, pour les populations qui ne savent pas lire et écrire, et qui ne parlent pas très bien français, c'est impossible. Mais il y a que quelques semaines, quelques mois, quoi. C'est pas très long, mais voilà, quoi.
Et c'est quoi la justification d'Adoma et la Caisse des dépôts et consignations pour empêcher les gens, en fait, de faire de l'hébergement solidaire, concrètement? C'est quoi la justification?
La justification, c'est que déjà, il y a le règlement intérieur, dans le sens où, en fait, les résidences sociales, les foyers de travailleurs migrants, mais ça s'applique aussi à tous les ce qu'on appelle logements foyers, en fait, qui sont définis dans le code de construction et de l'habitat, article L633-1. Tous ces logements foyers, en fait, c'est des types de logements particuliers, c'est-à-dire c'est pas vraiment de l'hébergement, mais t'es pas locataire, quoi, t'es résident. Et c'est un espèce de sous-logement pour personnes précaires, donc travailleurs migrants, étudiants, etc. Même t'as des gens au RSA et tout. C'est du sous-logement pour personnes précaires et du coup t'as moins de droits, en fait. Il y a une spécificité du droit qui fait que t'as moins de protection, t'as moins de droits que les locataires, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles tu peux te faire expulser plus facilement, etc. Et tu as moins de droits, tu n'as pas le droit à la vie privée, tu n'as pas le droit d'aménager ton logement comme tu veux, tu n'as pas le droit d'avoir un double de tes clés. Enfin, tout ça, c'est, ça rentre dans ce côté spécifique des logements foyers. Et à côté de ça, en fait, les gestionnaires, eux, ils se battent contre la suroccupation de leur établissement, en fait. Parce qu'effectivement, quand il y a les trois quarts des résidents qui hébergent quelqu'un, ça crée une situation de suroccupation qui respecte pas les normes de sécurité de l'établissement. Parce qu'il y a des jauges, etc., pour les incendies, etc. Il y a des jauges. Et par exemple, à Doma, je crois qu'ils nous le répètent chaque année, mais au début des années 2000, ils ont dû indemniser une personne parce que il y a eu un incendie dans un foyer et comme il y avait de la suroccupation dans le foyer, la personne a attaqué Adoma en disant qu'il respectait, il faisait pas respecter les normes de sécurité et du coup Adoma a dû payer, je sais pas, quelques dizaines de milliers d'euros à cette personne en indemnité. Du coup ils disent oui voilà, nous on se bat contre la suroccupation parce que ça respecte pas les normes de sécurité, ce qui est une réalité hein, bien sûr, mais en fait, la crise du logement fait que en fait les gens ils peuvent pas dormir dehors. Du coup il y a cette solution là qui est pas parfaite, bien sûr, qui est pas parfaite, mais en fait à chaque fois ils nous disent, les directeurs des gestionnaires, ils nous disent oui nous on se met en danger en acceptant la suroccupation, sauf que ceux qui se mettent vraiment en danger c'est les personnes qui sont résidents et qui hébergent, c'est à dire que eux ils risquent de perdre leur logement, en fait ils risquent de se retrouver à la rue, et ils le font quand même parce que il y a ce côté solidaire, ce côté entraide qu'ils ne sont pas prêts à lâcher, quoi.
Et on va avoir l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de cette émission. Vous restez avec nous, Olivier Akroum. Tout de suite, on va écouter Madame de Lancelot sur le 93.9.
Madame promène son cul sur les boulevards du Grand Paris. Madame promène son âme comme elle promène son Gucci. Madame se sent très bonne, oui, après son brushing. Madame aime les terrasses, les discussions de copines. Madame aime le champagne et donner son avis. Madame boit trop de champagne et les voyelles s'oublient. Madame, elle a raison, bien sûr que madame est érudite. Madame a plus de réseau, madame veut rentrer dans son lit. Madame a des besoins, madame a des envies. Madame veut des papouilles, madame veut que je sois gentille. Et moi, tous les soirs je fais le canard. Je fais le canard. Elle veut des fleurs, madame elle veut des gros bouquets. À chaque fois que je lui en offre, madame elle pense que je l'ai trompée. Madame elle se pomponne, mascara blush et highlighter, visage couleur pantone. Et moi je l'attends pendant des heures, madame elle aime bien plaire. Madame aimerait plus d'empathie, c'est pas facile de faire partie de la team des jolies filles. Madame elle fume des vogues, elle a les jambes croisées. Madame est sociologue, après deux verres de rosé. Madame, elle parle fort, madame se sent toujours très libre. Elle a raison, tout le monde a tort, on dirait que madame est ivre. Et moi, tous les soirs je fais le canard.
C'est pour madame, pour madame, pour madame que je fais ça.
Des régimes, elle veut garder son ventre plat. Madame tient à sa ligne, pas sûr qu'elle tienne autant à moi. Madame, souvent elle crie qu'un jour elle partira. Madame, souvent me dit qu'elle pourrait vivre sans moi. Madame, souvent elle rit. Madame rit qu'à ses propres blagues. Madame a bu des litres. Madame adore qu'on la regarde. Madame perd les pédales. Madame raconte n'importe quoi. Madame se retrouve en larmes. Madame regrette son célibat. Madame parle de ses ex. Paraît qu'ils sont meilleurs que moi. Madame est sans complexe quand elle me raconte leurs ébats. Et moi,
Tous les soirs je fais le canard.
C'est pour madame, pour madame, pour madame que je fais ça.
Du matin jusqu'au soir.
C'est pour madame que je fais ça.
Je fais le canard.
C'est pour madame, pour madame, pour madame que je fais ça.
Et je crois bien que j'en ai marre.
Pour madame, pour madame que je fais ça.
Je crois bien que j'en ai marre. Je crois bien que j'en ai marre. Je crois bien que j'en ai marre.
C'était Madame de Lancelot, vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Nous en parlions en première partie d'émission, nous recevons ce soir Olivier Akroum de la Confédération des foyers de travailleurs sociaux, pardon. Et vous nous expliquiez que les expulsions d'Adoma, elles se déroulent dans un processus qui est parfois assez rapide, notamment à partir du constat d'huissier, et que bah, les résidences sociales et les foyers de travailleurs sociaux, en fait, c'est pas réellement de l'hébergement, c'est pas de la location non plus. Ils sont dans un statut assez particulier de la loi qui leur accorde moins de droits. Est-ce que ce fait-là, c'est pas la porte ouverte, justement, à la stigmatisation et au racisme des travailleurs étrangers ?
Ah, si, bien sûr que c'est tout à fait ça, en fait. C'est que... il fallait loger ces personnes-là dans les années 60 quand ils sont arrivés et tout, et qu'il y a eu vraiment une crise de logement pour les ouvriers immigrés, et du coup ils ont créé ce logement foyer. En fait, c'est par définition un logement spécifique, un logement discriminatoire. En fait, ça crée une ségrégation dans l'espace, c'est un lieu de contrôle et de discrimination. En fait, c'est un lieu par essence de discrimination, les logements foyers. Donc ouais, c'est clairement ça, c'est lié au racisme, et parce qu'en fait toute la condition de travailleur immigré est entièrement définie par le racisme en France, c'est-à-dire la précarité de l'emploi, la précarité du logement, le manque d'accès aux droits, et tout ça c'est lié au racisme qui enfin, de manière globale, qui est un système d'exploitation des populations racisées, quoi.
Donc, comme on le disait, Olivier, vous faites partie du COPAF. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de comment le COPAF s'investit auprès des résidents et comment il permet de faire évoluer les conditions de vie, l'accès aux droits ?
Ok, ouais. Le COPAF, ouais, c'est ça, c'est le collectif pour l'avenir des foyers. Moi, je suis salarié là-bas depuis un an, mais c'est une association qui existe depuis 1996 et qui a été montée un peu par des militants des causes de l'immigration qui ont beaucoup milité dans les foyers dans les années 70, un peu des militants maoïstes de l'époque et tout, et du coup qui ont créé cet asso en 96. Et nous, notre travail, en fait, c'est de soutenir les résidents de foyers, les luttes surtout, en fait, nous surtout soutenir ceux qui se battent pour leurs droits. Et par quoi ça passe ? Ça passe par surtout l'appui et le soutien aux délégués des foyers. Alors, parce qu'il faut savoir que dans tous les foyers de travailleurs migrants, et normalement dans tous les logements foyers, quand il y a plus de 30 résidents, le gestionnaire est tenu d'organiser des élections pour qu'il y ait des représentants des habitants, en fait. C'est-à-dire que dans tous les foyers travailleurs migrants, normalement, il y a des délégués qui sont les représentants officiels des résidents du foyer et qui sont là pour défendre leurs droits face aux gestionnaires, face aux différents interlocuteurs. Et nous, on travaille avec ces délégués-là, on les forme, c'est-à-dire qu'on essaie de leur donner des outils pour défendre leurs droits, etc. Et on les accompagne aussi dans leurs démarches, c'est-à-dire on écrit des courriers avec eux, on les accompagne aux réunions, aux conseils de concertation, c'est des espèces de réunions qui se tiennent avec les gestionnaires pour prendre des décisions par rapport à la vie du foyer. On les accompagne là-dedans, on les accompagne dans les réunions avec la mairie, on les accompagne dans leur lutte aussi quand ils choisissent de lutter, de bloquer, d'occuper des endroits, d'aller au conseil municipal pour poser des questions. Dans toutes les formes de lutte qui choisissent de prendre, bah nous on essaie de les accompagner comme on peut, et voilà. Et à côté de ça, on a aussi des permanences deux fois par semaine, les mardis et vendredis après-midi. On accueille des résidents de foyer, on fait toutes sortes de démarches administratives avec eux pour les aider, quoi.
Et quel lobbying auprès des élus locaux, députés, etc. vous pratiquez ? Quels sont leurs effets ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses concrètes, par exemple, que vous pourriez nous citer, des réussites, par exemple ?
Ouais, alors au niveau du plaidoyer, nous ce qu'on fait, c'est que on essaye, comme parce que je vous avais dit de la statut de spécificité dans les logements foyers, nous on essaye de lutter contre, c'est-à-dire que nous ce qu'on demande et ce qui a été, ce qui est une revendication depuis les années 70 en fait des résidents de foyer, c'est le droit des locataires pour les résidents de foyer. Parce que c'est vraiment ce côté spécificité du droit qui fait qu'ils les met dans la merde, en fait, du fait qu'ils ont moins de droits, etc., de logements spécifiques, droits spécifiques avec moins de droits. Nous, on n'est pas d'accord là-dessus. Après, bien sûr, le droit des locataires, c'est pas non plus l'idéal de ouf, mais au moins, c'est égalité des droits, quoi. C'est un peu ça qu'on essaie de mettre en avant avec notre plaidoyer. Par exemple, l'année dernière, ouais, en juin 2023, on avait un colloque à l'Assemblée nationale organisé avec des députés de gauche, LFI surtout, mais pas que, écolo aussi. On avait un colloque là-bas, toute une après-midi, on a parlé des enjeux autour des droits des personnes résidentes de foyers, travailleurs migrants, résidents sociales. Et on essaie de développer tout un argumentaire sur pourquoi cette spécificité du droit, en fait, c'est refuser le droit commun aux résidents de foyer et c'est pas normal. Il y a un des fondateurs du COPAF qui est un avocat avec qui on a rédigé toutes des propositions de modification de loi, en fait, vraiment très concrètes pour améliorer les droits des résidents. Et voilà, ça c'est à l'échelle nationale, mais à l'échelle locale aussi, on travaille bien sûr toujours avec les mairies, les conseils municipaux, les conseils de quartier aussi. Enfin, il y a ce truc-là où on essaie de travailler avec tous les acteurs locaux qui peuvent être utiles pour soutenir en fait les droits des résidents face aux gestionnaires. Parce que en fait, ce qui est dangereux pour les résidents, c'est d'être isolé. Quand on est isolé face aux gestionnaires, souvent c'est difficile de faire respecter ses droits. Et quand on a des soutiens locaux, que ce soit juste des voisins solidaires, quand c'est la mairie, bien évidemment, ça aide beaucoup. Mais voilà. Et les mairies, les préfectures, ça nous aide aussi à obliger les gestionnaires à respecter la loi, parce qu'ils le font pas toujours. Il faut mettre une petite pression de la part des mairies ou des préfectures souvent pour qu'ils respectent la loi. Et voilà, c'est avec tout, enfin, de différentes manières, on travaille avec les élus locaux et nationaux, quoi.
Est-ce que vous avez aujourd'hui d'autres soutiens pour vous aider dans votre lutte ?
Ouais, carrément, parce que nous, on est quand même inclus dans un tissu associatif, à la fois du côté de droit au logement. Nous, on fait partie de la Fédération DAL. On partage nos locaux avec le DAL Paris, Association de droit au logement Paris. Et à côté de ça, on a des très bons rapports avec toutes les associations qui travaillent pour les droits des étrangers, avec les collectifs de sans-papiers, avec les collectifs de gens qui habitent en squat et tout. Toutes les associations, on les connaît très bien, quoi. Du coup, on a beaucoup. Il y a tout ce tissu de défense des droits des étrangers et du droit au logement dans lequel on est inclus. On fait des événements ensemble, on fait des manifs ensemble. Voilà, on se soutient entre nous comme on peut dans les différentes mobilisations. Et ouais, c'est un truc de partage, quoi, solidaire.
Et dans le cas d'expulsion, comment est-ce que le COPAF peut soutenir les personnes qui vont être expulsées ?
Ça dépend des étapes du processus d'expulsion. En fait, nous, on va soutenir en général les gens. Des fois, ils viennent nous voir dès qu'ils ont la lettre de mise en demeure. On leur dit les possibilités qu'il y a après cette lettre de mise en demeure, que voilà, il faut essayer de se mettre en règle, mais si vous pouvez pas, sachez qu'il y a un huissier qui va passer, comment se comporter avec l'huissier, etc. On essaie de donner tout ce genre d'outils pour savoir dans quoi ils sont embarqués en fait avec cette procédure et comment ça va se passer. Après, une fois qu'il y a la convocation au tribunal, nous, on fait les demandes d'aide juridictionnelle, pour pas que les personnes aient à payer trop de frais de justice. Et on trouve des avocats. On a un espèce de répertoire d'avocats, avocates, qui est pas très fourni. Hein. Une ou deux personnes qu'on appelle, qui acceptent de s'occuper de ces cas-là et qui ont une certaine connaissance de ce cadre-là. Et voilà, on trouve des avocats, on fait les demandes d'aide juridictionnelle. On discute avec eux, on prépare les dossiers pour l'avocate, etc. Et après, une fois que l'expulsion est prononcée, là, c'est autre chose parce que ça devient... quand il y a le concours de la force publique, c'est-à-dire que la préfecture autorise la police à aller virer le mec Malu Militari, c'est difficile. Ce qui est possible de faire, nous on fait, le DAL le fait, c'est des piquets anti-expulsion. C'est-à-dire qu'on sait à peu près les semaines où la personne risque d'être expulsée. On vient tous les matins à 6h en disant voilà, on refuse. Parce que quand même, les policiers, tout ça, ils n'aiment pas trop quand l'expulsion a fait du bruit, quoi. Ils rechignent un peu à expulser Manu Militari quand ils savent qu'il y aura une mobilisation, que ça va faire du bruit, que ça va faire des problèmes, etc. Ils hésitent un peu. Mais voilà, pour qu'il y ait un piquet anti-expulsion, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'il y ait une mobilisation des résidents, des voisins, etc. Enfin, ça se crée en collectif, quoi.
Et dans le cas où ces mobilisations-là n'ont pas de succès, est-ce qu'il y a des alternatives qui sont proposées aux personnes qui sont expulsées? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles sont relogées? Comment vous les aidez dans ce cas-là?
Alors non, elles sont pas relogées en fait. Quand elles sont expulsées, elles sont tout simplement sont à la rue en général. Après, il y a des personnes qui peuvent faire appel à la solidarité, c'est-à-dire leurs proches, quoi, concrètement. Tu vas voir, je sais pas, ton cousin, ta sœur, un pote pour qu'il t'héberge le temps que tu trouves une vraie solution de relogement. Ce qui est compliqué, hein, ça crée des conflits après avec les proches. Bref, voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est que forcément, après, le but quand on est expulsé, l'urgence, c'est de trouver un autre logement. Après, il y a l'hébergement, c'est-à-dire tout ce qui est hébergement d'urgence, 115 et tout. Mais ça, c'est des solutions qui sont vraiment pas ouf, quoi. C'est dangereux pour la santé des gens. En fait, c'est des modes de vie ultra stressants qui atteignent la santé mentale des gens de manière hyper rapide. Passer d'hôtel en hôtel, les punaises de lit, les trucs, vivre avec des personnes précaires qui ont autant de problèmes psychologiques, etc. Enfin, c'est vraiment pas une vie de l'hébergement. On essaie d'éviter ça le plus possible. Après, trouver un logement, bien sûr, il y a les demandes de logement social à la mairie, qui prennent des années d'attente avant de pouvoir en avoir un. Mais une fois qu'on a une décision d'expulsion, en fait, on peut faire un dossier d'allo. Voilà, on rentre dans des trucs un peu techniques dans notre logement, mais le dossier d'allo, c'est en gros, tu peux être reconnu prioritaire et passer devant. Et normalement, quand tu es reconnu prioritaire d'allo, l'État est censé te reloger en 6 mois minimum. Après, c'est pas respecté, bien sûr. Il y a des gens qui sont prioritaires d'allo, qui n'ont pas de logement pendant 3 ans. Mais nous, c'est ce qu'on fait en général. On dit aux gens, voilà, faites votre demande de logement social. Si c'est pas encore fait, faites-la. Et après, on fait un dossier d'allo et on fait ce qu'on peut, quoi, pour trouver un logement le plus rapidement possible.
En tout cas, une chose est sûre, le débat est loin d'être clos. Merci beaucoup, Olivier Akroum, d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h. Tout de suite, on va écouter Plus le temps passe et c'est signé Exxon Salves.
Et du haut de la...
Passe d'Exxon Valdez, c'est tout nouveau et on en parle un peu plus tard. Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et je vois Esteban Mirales qui passe les portes du studio de la matinale et tu viens nous parler ce soir d'un jeune espagnol, je crois.
C'est ça, bonsoir Théo, bonsoir chers auditrices et auditeurs de Radio Campus Paris. Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour une petite chronique sportive dédiée à un jeune espagnol. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. On va parler du tennisman Carlos Alcaraz. Hier soir, le jeune espagnol de 20 ans s'est offert Daniil Medvedev en finale du Master 1000 d'Indian Wells en Californie sur le score de 7-6-6-1. Une démonstration de force de la part d'Alcaraz qui conserve son titre de l'an passé qu'il avait déjà acquis contre le russe Daniil Medvedev. Alors que dire de l'espagnol ? Eh bien, tout d'abord, on va parler du plus important pour moi, c'est son jeu. Sa qualité tennistique est absolue. Il possède toutes les armes de tennis qui puissent exister à seulement 20 ans. Le service, il l'a. Il arrive à toucher toutes les zones. Son coup droit est monstrueux. Sa puissance de frappe est des plus impressionnantes. Et il a un toucher de balle exceptionnel. Le jeune prodige, en fait, c'est un magicien, un artiste, un showman. Il est imprévisible et sa variation incessante dans ses coups fait de lui un joueur si beau à voir jouer. Pour celles et ceux qui ne suivraient pas le tennis, je vous conseille d'aller sur YouTube, de vous faire une petite compilation des points complètement ahurissants qu'Alcaraz fait et vous allez très vite avoir envie d'allumer la télé pour le voir. Mais moi, au-delà de ce show, de son tennis popcorn, en quelque sorte, ce qui marque le plus, c'est son énergie débordante, son sourire communicatif. Il transmet de la joie en jouant au tennis et ça, je trouve ça magique parce que on voit un joueur qui s'éclate et qui veut offrir du bonheur aux spectateurs. Et récemment, il a confié avoir perdu un peu de cette confiance, cette joie de jouer au tennis tous les jours. Et les résultats étaient un peu moins bons. Depuis son sacre à Wimbledon l'été dernier, on n'avait pas vu Carlos Alcaraz jouer à ce niveau-là. Plus de 6 mois sans finale sur le circuit ATP, le numéro 2 mondial a été beaucoup critiqué. Et alors parfois à juste titre, hein, voulant finir le point très vite. Et là, sur ce tournoi d'Indian Wells, qu'il adore, il a accepté de rentrer dans des échanges plus longs et d'attendre le bon moment pour envoyer des véritables ogives et détruire ses adversaires. Avec cette victoire, Carlos Alcaraz décroche son 13e titre en carrière et son 5e Master 1000. C'est simple, depuis 1990, seul Rafael Nadal a remporté plus de titres avant de fêter 21 bougies. Alors si certains détracteurs ont pu l'enterrer, le phénomène Alcaraz est bel et bien de retour et on le retrouvera très vite sur les courts puisqu'après sa victoire à Indian Wells, l'Espagnol va se rendre à Miami en milieu de semaine pour le dernier Master 1000 avant la saison sur terre battue qui l'emmènera peut-être vers son premier sacre à Roland-Garros.
Eh bien, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Reste avec nous, chers auditoristes, la matinale de 19h, c'est pas fini sur le 93.9.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Et le Zoom de ce soir est présenté par Héloïse Michel, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Héloïse.
Bonsoir Théo.
Et ce soir, je crois que tu reçois Exxon Valdez pour leur 5e album Maps. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Salut.
Bon, mais merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci. Je vous propose qu'on se déplace un peu sur la carte de votre groupe et qu'on aille zoomer sur ses commencements parce que vous êtes doté d'une amitié de très très longue date apparemment. Je vous invite à nous raconter tout ça.
Ben oui, dans le groupe en fait, on s'est rencontrés certains au collège, certains au lycée. Donc voilà, c'est notre 5e album. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait de la musique ensemble sous le nom d'Exxon Valdez.
Oh. Ça se dit presque plus du coup, ça fait tellement longtemps que dire ça fait plus de 20 ans.
Tu disais tout à l'heure, ça fait 24 en fait, c'est ça ?
24 ans avec Exxon Valdez.
Oui, ça continue de passer, c'est normal. Ouais.
Et donc vous avez eu beaucoup d'évolutions musicales dans vos pratiques. J'ai cru comprendre qu'au début vous étiez plus sur des reprises d'icônes grunge, etc. des années 90. C'est
ouais.
Bien ça ?
Bah, on a commencé comme ça, on a commencé sur une passion commune pour Nirvana, les Foo Fighters, ce genre de groupe.
Et on a fait, je pense, comme beaucoup de monde. On a réservé des studios de répète le samedi après-midi pour jouer des reprises de ces groupes-là, sans doute assez mal, mais on était très contents. Le parcours classique. Et puis petit à petit, bah, on a commencé à écrire nos propres chansons. On s'est dit que c'était pas mal aussi. Et puis on a commencé à faire des concerts. Mmh. Et puis après, on a eu la chance de pouvoir sortir un premier album sur une maison de disques. Et puis après, ça s'est enchaîné. Et puis on s'est pas arrêté. Enfin, on s'est un petit peu arrêté récemment, mais globalement, on s'est pas arrêté. Et nous voilà avec le cinquième album.
Oh, génial. Et votre ancien album est passé sur Emily in Paris. Quelle est cette anecdote? Il y a eu un titre, c'est ça?
Il y a eu un titre du précédent disque dans la saison 1 et il y a un titre du nouvel album dans la saison 3.
Oh.
L'anecdote, en fait, la version très professionnelle, c'est nous, on a créé notre label, on est éditeur, donc en fait, on fait ce travail de rechercher des placements de musique. Mais la vérité, c'est que moi, j'étais figurant sur la série Emily in Paris. Et du coup, quand on est figurant de cinéma, on s'ennuie beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de temps pendant ce tournage pour penser à qu'est-ce que je pouvais en tirer de plus qu'un cachet d'intermittent au tarif minimum. Et ça m'a donné l'idée, en fait, de chercher qui était quelle était la boîte de production, la supervision musicale de la série. Mm-hmm. Et je leur ai écrit à un moment où, en fait, ils commençaient à chercher de la musique française, mais ils n'avaient rien en stock parce que c'est une boîte à New York. Et voilà, c'était le bon mail au bon moment. Et donc, on a eu une chanson dans la première saison.
Super. J'ai un peu lu vos parcours et il y a un mot qui m'a interpellé, c'est le mot mathématicien de la musique. Je trouvais intéressant le fait de parler de la musique au sens théorique et scientifique, donc je vous invite à discuter de ça avec nous.
En fait, cette expression qui est dans la bio, parce que nous, c'est pas très rock'n'roll, on est tous des ingénieurs de formation en fait. Donc Antoine, il est ingénieur du son, moi j'ai un master en intelligence artificielle, Martin, notre batteur qui n'est pas là, est polytechnicien. Donc voilà, ça nous fait toujours sourire parce qu'en fait c'est vraiment pas le parcours peut-être cliché du groupe de rock. Et en fait, j'ai l'impression qu'en un sens, ça nous a donné une méthode de travail qu'on applique dans notre musique, dans notre écriture ou peut-être dans notre stratégie pour durer. Et manifestement, ça fonctionne.
Mais par contre, il n'y a pas de formule mathématique qu'on applique, non, ça ne marche pas comme ça.
Mmh. En tout cas, si elle existe, on ne l'a pas trouvée encore.
Et j'imagine. C'est le grand mystère. Par rapport à l'intelligence artificielle, moi, ça m'intéresse de savoir si vous l'avez utilisée sur votre dernier album, à quel endroit ça s'est placé.
Alors un peu, pas vraiment musicalement, je pense pas musicalement, ouais. Mais on l'a un peu utilisé après au niveau de l'image, ouais. Notamment dans le clip du morceau qui est dans la saison 3 d'Emily in Paris, je fais la liaison avec la question d'avant, qui s'appelle Torino. On a fait un clip dans lequel on a fait générer des images par intelligence artificielle et qu'on a intégré dans le clip. Donc effectivement, on a commencé à utiliser ce genre d'outils.
Et puis c'est un outil de création qui est utile parce qu'on, par exemple, on utilise l'IA... pour créer des références, pour expliquer à un photographe quelle photo on veut faire, pour expliquer, je sais pas, à une musicienne. En fait, on ne l'utilise pas vraiment dans la création pure. On ne demande pas à l'IA de créer quelque chose, mais on l'utilise comme outil, comme n'importe quel outil informatique. Mais là, ce qui va changer, c'est qu'on a un remix qui sort bientôt, qui là, pour le coup, a été complètement fait en IA par un musicien français qui s'appelle Benoît Carré. Et là, la voix est générée par IA. Ça va être assez chouette, on vous l'enverra.
Super, mais c'est une voix, une de vos voix qui
non,
est...
Non, c'est une création.
C'est une voix qui n'existe pas, mais qui chante exactement comme moi.
Ouais, c'est fou.
C'est assez étonnant. Ouais.
C'est fou. Oh, super. Et donc, dans votre parcours, par rapport à votre évolution musicale, vous avez un album qui est assez mélangé, il y a plusieurs inspirations. Est-ce que vous pouvez nous en citer, par exemple, vos trois principales, celles qui vous font vibrer le plus, quoi?
Je pense qu'il y a les groupes qu'on écoutait au début, donc les groupes des années 90. Moi, je suis archi fan d'un groupe qui s'appelle Chalkboard, qui est un groupe originaire d'Hawaï, qui a beaucoup tourné en France dans les années 90. Et puis après, on s'est vachement ouvert, donc on a écouté aussi bien Kraftwerk, Philip Glass, Pearl Jam, Radiohead beaucoup. Et puis des choses en français aussi, parce qu'au début, on chantait que en anglais. Et petit à petit, dans la recherche de nouvelles idées, on a eu envie, il y a une quinzaine d'années, pour le troisième album, de s'ouvrir un peu aux Français. Pour nous, c'est comme deux instruments différents, guitare, piano, français, anglais. On essaye d'avoir toutes ces cordes à notre arc. Et depuis, on essaye de maintenir cet équilibre-là entre le français et l'anglais. Donc l'album Maps, c'est 50-50 normalement, sur les deux langues. Voilà, et un peu d'espagnol même parfois.
C'est le grand rapport au voyage, en fait. C'est aussi, on voyage au travers des langues et de tous ces lieux dont vous nous parlez dans l'album.
Ouais, parce que Nous, en fait, il y a quelque chose qu'on s'est dit assez tôt dans notre carrière, quand on a commencé à avoir la chance de voyager avec la musique. D'abord, un peu forcément, la Belgique, puis l'Allemagne. Après, il y a eu toute une histoire en Espagne. On est même allé jusqu'au Liban jouer il y a une dizaine d'années. Et assez vite, on s'est rendu compte que de par nos influences, ce parcours, et puis le fait qu'on avait plus de succès en Espagne qu'en France, par exemple, qu'il y avait une forme d'identité un peu européenne dans notre musique, en particulier sur ce quatrième album, Aranda, qui est sorti en 2016, où il y avait du français, de l'anglais et de l'espagnol. Alors, il nous reste pas mal de langues auxquelles s'attaquer, hein, mais c'est déjà...
Et qu'en plus, on avait enregistré en partie en Espagne.
Et qu'on avait enregistré là-bas. Okay. Ouais. Et donc, ouais, souvent, en fait, nos morceaux, beaucoup des morceaux partent d'une idée de voyage, soit un voyage qu'on a fait, soit un voyage qu'on aurait envie de faire, ça part d'un lieu. Le morceau Barbican parle de Londres, il y a ce morceau qui s'appelle Torino... c'est l'une de nos sources d'inspiration des lieux, le rapport qu'on a avec ces lieux. Donc voilà, si un concert se passe bien quelque part, peut-être qu'on écrira une chanson par exemple.
Mais moi justement la chanson Barbican dont vous parlez, c'est celle qui m'a le plus transpercée et je voulais savoir si elle avait une anecdote de création. Est-ce qu'elle a été faite à l'endroit où qu'elle raconte ?
Alors, elle n'a pas du tout été écrite au Barbican Center de Londres, mais que moi, j'ai eu la chance d'aller voir un concert d'une chanteuse qui s'appelle Susan Sanford il y a quelques années, qui est vraiment un concert, je pense que c'est l'un des meilleurs concerts que j'ai vu de ma vie. Et en plus, j'avais très envie d'aller à ce concert et je connaissais déjà le lieu, qui a une histoire quand même très particulière. C'est un bâtiment brutaliste qui a été construit dans une zone de Londres qui avait été complètement bombardée pendant la guerre. Et donc c'est une architecture, moi, que je trouve assez forte, pas forcément belle au premier regard, mais qui a beaucoup d'histoire. Et donc j'étais très excité à l'idée d'aller au concert et de voir le lieu. Et les deux étaient extraordinaires. Et après, comme souvent, en fait, c'est peut-être deux ou trois ans après, parce que je me rappelle qu'on a commencé à écrire ce morceau pendant le premier confinement, je crois. Et... quand un morceau arrive, il y a tout de suite un mot ou deux qui viennent un peu pousser la mélodie, donner une direction. Et le mot Barbican, enfin le nom Barbican, c'était vraiment le point de départ de la chanson. Et après, c'est juste un fil à tirer. Parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Et là, c'était assez simple, en fait, de trouver les idées. Mais ça reste très imagé. Donc, c'est pas le morceau n'est pas une description du lieu, quoi.
Il y a plusieurs thèmes à aborder, notamment le changement de notre monde, le temps qui passe, etc., dans votre dernier album. Et je suis intéressée de savoir pourquoi est-ce que vous avez croisé aussi tous ces thèmes ensemble autour du sujet du voyage. Est-ce que tout pour vous est comme un fil continuel sur votre carte et se relie ?
Oui, le temps et l'espace, forcément, et pour des mathématiciens.
Depuis 24 ans, on joue ensemble, donc le temps qui passe, ça nous connaît maintenant.
Mais j'ai l'impression que le temps qui passe, ça a toujours été un de nos thèmes. Et là, c'est ajouté, en fait, quand on voyage, quand on vit même, en fait, ici, nous, avec nos amis, nos familles, ou quand on se déplace et qu'on rencontre d'autres gens, on constate, en fait, toutes les difficultés du monde. C'est 2024, c'est pas génial comme période, quoi. Et ça s'est imposé, en fait, je pense, dans l'écriture des textes, que écrire une chanson, je pense que c'est partir du personnel et le rendre universel, et que dans cette recherche d'universalité, en ce moment, c'est difficile de ne pas parler, par exemple, de la crise écologique et de l'anxiété que ça peut créer. L'anxiété, ça a toujours été un bon thème d'écriture pour nous. On a trouvé une nouvelle source d'anxiété, c'est très bien.
C'est la première chanson de l'album, d'ailleurs.
Ouais, entre autres, Change, effectivement. Ouais.
Et donc, vous avez un concert qui se prépare le 27 mars au Point Éphémère. Est-ce que vous êtes vraiment ready pour ce concert ? Comment est-ce que vous l'abordez ?
Je pense qu'on peut dire qu'on est pas mal prêt. On revient d'une semaine de tournée en Espagne.
Super.
Du coup, la semaine dernière, qui était vraiment super. Donc, à mon avis, on est rodé. Je pense qu'on peut dire ça.
Vous êtes souvent sur les routes, alors ?
Alors, on a été souvent sur les routes et on va être de nouveau souvent sur les routes. On a fait une petite pause de quelques années, mais j'espère qu'on va être beaucoup sur les routes toute cette année, effectivement.
Le prochain concert, donc, c'est le 27 mars au Point Éphémère. Est-ce que vous avez d'autres dates de prévues ?
Ouais, Barcelone, Alicante, Murcie, Bilbao.
On repart une deuxième semaine en Espagne. Après, si ta question, est-ce que vous avez des dates en France ? Peut-être à l'automne ?
Ouais. On travaille sur une tournée française à l'automne.
Voilà.
Super. Et donc, il y a une réédition de votre dernier album qui se prépare avec des morceaux acoustiques en bonus qui sortira donc le 20 mars, mercredi.
Mercredi,
donc ça arrive très très vite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci.
Merci beaucoup à tous les trois pour ce Zoom. Tout de suite, on va marquer une dernière pause musicale sur le 93.9 et on va vous écouter vous, Exxon Faldes, puisqu'on va écouter Party People.
face, hiding in the shadows, drifting in out of space, just like somebody said on that table those years ago. Cause now there's nothing left to fear. Can someone figure it out for me? I barely remember you, yet you seem to resent me. I will crush your body, I will fearlessly be happy. I drink all your wine. Wish that I could shape the sound of this empty room, the way we say goodbye, the same way I arrive and disappear right out of the blue. Cause now there's nothing there for me. Can someone figure it out for free? I barely remember you, yet you seem to resent me.
Party People d'Exxon Valdez, c'est tout nouveau et c'est le 27 mars prochain au Point Éphémère. Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et pour terminer notre émission, Rosalie Berne de la rédaction de Radio Campus Paris est en train de chercher dans ses feuilles. Je crois que tu viens nous parler de la nouvelle initiative de notre station face à un fléau bien français.
Tout à fait. Et là, je suis en train de lutter seule face à des feuilles. C'est absolument incroyable. J'ai rarement vu ça à Radio Campus Paris. Et le gouvernement manque donc cruellement d'initiatives pour redresser ce quinquennat désastreux. Mais Radio Campus Paris va régler ça en instaurant un procédé novateur. Le numéro vert. Tiens, prends ça Macron, t'y as jamais pensé, hein ? Et oui, une ligne sera créée pour régler un problème qui touche 10% des Français. Cette solution révolutionnaire qui va résoudre le problème à la racine du mal-être qui touche, je rappelle, plus de 10% des Français, mais dont personne ne parle. Alors oui, j'ose prendre des décisions radicales en créant le premier numéro vert des problèmes de riches. Et ce soir, ce n'est pas une question de nos auditeuristes que l'on va répondre, non pas deux questions, et pas du tout 2 246 000 questions que l'on va répondre ce soir, non, on va répondre à quatre questions. Allons-y, commençons avec notre premier auditeur, Alain Mémieux, qui nous demande...
Maintenant que l'argent est virtuel, je ne peux plus sentir le poids de l'alias de mes billets dans ma poche, je me sens comme vide, que faire ?
C'est vrai que votre problème de riche est aussi difficile à vivre que d'ouvrir une porte qui s'ouvre dans les deux sens. Et vous savez, vous n'êtes pas le seul à ressentir ça. Je pense qu'échanger sur votre problème avec la bonne personne vous ferait du bien. Je vais vous transmettre le contact de 50 Cent. C'est un rappeur qui ne nage plus dans les liasses de billets et qu'aujourd'hui se retrouve à nager dans une baignoire remplie de cartes bleues. Et nager dans une baignoire de cartes bleues, ça fait mal. J'espère que j'ai pu répondre à votre mal-être. Bon, ok, prochain problème de riche, on a une auditrice sous le nom de XX, Dark Bettencourt, XX, qui nous a transmis une question à travers LinkedIn.
J'ai du mal à connecter avec les autres parce que très peu de gens ont une expérience de vie similaire. Par exemple, j'ai donné le conseil à un ami d'arrêter de faire des jobs alimentaires s'il ne les aimait pas et de commencer à travailler pour la boîte de ses parents. Et voilà, maintenant que l'on n'est même plus amis, il m'a retiré de ses contacts LinkedIn. Je ne sais plus quoi faire ou peut-être leur dire que la fortune personnelle traduit notre mérite.
Oulala, non, XX, Dark Bettencourt, XX, je vous conseille de lire le livre « Le capitalisme pour les nuls ». Et votre intervention d'ailleurs me laisse à penser que vous ne lisez que des livres de personnages du même milieu social que vous. Alors arrêtez de lire en boucle Gatsby le Magnifique et Dora l'Exploratrice, parce que lire pour la millième fois la vie d'un milliardaire et une rentière qui passe sa vie en voyage, c'est pas une façon de pour mieux comprendre votre entourage. À la place, je vous conseille le livre éponyme Winnie l'ourson, un récit d'un chômeur qui a passé sa journée à se demander ce qu'il mange ce soir. Bon, maintenant, on va passer aussi à la troisième problème de riche. On a reçu un mystérieux message d'un certain Arnaud Bernard, compte anonyme, qui nous explique que, je cite...
C'est compliqué de combler, de compter combien je dois au fisc. J'ai mal à la tête en lisant les rapports des comptables d'optimisation fiscale.
Ah, Arnaud Bernard, compte anonyme, je vous entends, mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Arrêtez de lire ces rapports d'optimisation fiscale et laissez le fisc vous dire combien vous leur devez. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Puis bon, voilà, merci, je sais que ça va beaucoup vous aider et que surtout vous nous écoutez tous les soirs. Et pour terminer, on a un dernier auditeur qui s'appelle Manu, qui nous a envoyé un message très court. Pognon de dingue. Et point. Alors là, Manu, vous ne parlez pas de votre argent, mais celui de la France. Et selon l'INSEE, 14,5% de la population française vit au-dessous du seuil de pauvreté en 2021. Si la France était une personne, elle ne serait pas riche. Merci de ne pas encombrer ce téléphone vert avec des problèmes de gens pauvres. Pour la prochaine fois, si quelqu'un appelle pour parler de quelqu'un d'autre non riche, eh ben, cette personne va être taxée au taux réel sans possibilité d'évasion fiscale et sans optimisation fiscale pour un taux à 43%. Note à moi-même, je crois avoir trouvé une solution pour rembourser la dette française.
Eh bien, il semblerait en tout cas. Merci beaucoup, Rosalie. Et maintenant, chère auditrice, nous voilà arrivés à la fin de cette matinale de 19h. J'espère sincèrement que cette émission t'a captivé, t'invitant à explorer de nouveaux horizons de connaissances, un peu plus riches que la veille, mais certainement moins que celles qui illumineront ton avenir demain. Un grand merci à Olivier Akroum pour avoir partagé avec nous son éclairage avisé sur les expulsions qui ont lieu en ce moment au sein d'Adoma. Un chaleureux applaudissement à Lola Noslier et quant à Le Laquais pour leur précieuse contribution. Un bravo à Rosalie Bernd pour sa chronique captivante sur les problèmes des riches. Et un gros merci à Héloïse Michel et Exxon Valdez d'avoir participé au Zoom dédié à la sortie de leur 5e album. Et comment ne pas mentionner Esteban Mirales pour sa contribution passionnante dans sa chronique sur El Caraz. Ils ont vraiment enrichi notre émission. Je veux aussi souligner le rôle crucial de notre complice Michael Adarav, qui assure le bon déroulement de nos échanges en ouvrant les micros de la matinale. Sans toi, rien ne serait possible. Pardon. Et bien sûr, un énorme merci à Héloïse Robert, notre moteur, qui coordonne avec brio toutes nos activités. Grâce à elle, nos programmes sont toujours dynamiques et passionnants, spécialement pour toi. Et enfin, un énorme shout-out pour toi, notre auditrice fidèle. Ta présence à nos soirées dès 19h nous motive à continuer d'évoluer et à traiter de sujets qui te passionnent. Tu es notre inspiration, notre muse, et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Mais reste avec nous, car tout de suite tu as rendez-vous avec Pièces Détachées. Alors de quoi on parle ce soir ?
Alors ce soir on a un programme bien dense et on reçoit Alexandra Sismondi pour une pièce qui se joue au Théâtre Paris-Villette.
Et bien voilà, le rendez-vous est donné. La matinale de 19h, elle revient en toute exclusivité pour toi dès demain sur le 93.9 et 24/24/77 sur radiocampusparis.org. Avant de nous quitter, souviens-toi de ceci. Peut-être te dis-tu que tu ne vaux rien, peut-être trouves-tu trop difficile d'être positif, peut-être trouves-tu cela épuisant, tu as raison. C'est fatigant, tous ces gens heureux autour de nous. L'autre option, elle est plutôt morbide, non? C'est juste un paradigme à prendre. Commence par te lever chaque matin et te dire je suis une putain de merveille en ce monde et rien ne t'arrêtera. En attendant, je te dis à plus tard et surtout, enjoy!